Bonjour Stanislas.
Bonjour Pascal.
Alors tu vas nous parler aujourd'hui des nouveautés du cluster de fichiers de Windows Server 2012 R2 et je crois principalement dans deux scénarios bien précis, à savoir Hyper-V et la dernière version du SQL Server.
Tout à fait Pascal. Alors, tout d'abord peut-être rappeler un petit peu ce que c'est qu'un Scale-Out File Server, SOFS. C'est un cluster de fichiers de type actif. C'est-à-dire qu'à l'instant T, tous les nœuds du cluster en fait vont répondre en fait au service serveur de fichiers. Donc ils seront accessibles par les différents clients à l'extérieur. Clients qui pourront être soit des serveurs SQL Server, soit des serveurs Hyper-V. Donc ça c'est la grosse différence entre un Scale-Out File Server et un cluster de fichiers tel qu'on le connaît depuis les origines du cluster. Pour revenir longtemps dans le passé, on va dire les clusters NT4, Wolfpack, et avant, parce qu'en fait ils sont hérités d'une technologie qui vient de chez Digital, des clusters du monde digital. Donc historiquement, en fait, le cluster chez Microsoft est un cluster de type Sharenothing, c'est-à-dire qu'un nœud de cluster, quand il accède à une ressource partagée sur une BSAN, il lock la LUN, donc l'unité logique, et il n'y a que lui qui peut la voir. Les autres membres du cluster voient en fait un disque en mode offline. Ça, c'était vrai, en fait, jusqu'à 2012. 2008 R2, même, je dirais. Jusqu'à 2008 R2. Il est arrivé un moment, en fait, où on s'est aperçu que quand on commençait à stocker des machines virtuelles sur DB partagées, pour faire des clusters Hyper-V, eh ben, on avait une problématique. C'est-à-dire que si on voulait faire une live migration, déplacer une machine virtuelle d'un hyperviseur vers un autre, donc d'un nœud vers un autre, en fait, comme le verrouillage était fait au niveau de la LUN, ça faisait basculer l'ensemble de la LUN et l'ensemble des machines virtuelles qui étaient dessus.
Et oui.
Et oui. Et donc, c'est là qu'est arrivée l'invention du CSV, le Cluster Share Volume, qui permet de faire un verrouillage non plus au niveau de la LUN sur le SAN, mais au niveau des fichiers. Et effectivement, du coup, bah, tout se passe bien parce qu'on peut avoir plusieurs nœuds Hyper-V qui vont accéder en simultané à une même LUN. Le verrouillage n'est plus sur la LUN, mais sur les fichiers. Chaque machine virtuelle a un nombre de fichiers associés qui sont verrouillés par le nœud donné, ce qui fait qu'en fait, en déplaçant une machine, on ne provoque pas la bascule des autres machines. C'est l'origine en fait du CSV et du Scale-Out File Server. Donc, c'est comme ça que ça a été conçu à l'origine et c'est comme ça que c'est utilisé désormais dans 2012, 2012 R2. En 2012 R2, on a rajouté le rôle serveur de fichiers qui était donc un des nœuds capable d'accéder en simultané à un endroit. Donc, en 2012 et 2012 R2, le Scale-Out File Server, c'est pareil, c'est un nœud qui est serveur de fichiers, un nœud qui est serveur de fichiers, un nœud qui est serveur de fichiers, et chacun accède en simultané à une même LUN. Le verrouillage n'est plus au niveau de la LUN, donc du volume, mais est fait au niveau fichier, tout simplement.
D'accord.
Donc ce qu'on a fait dans 2012 R2 versus les générations antérieures, c'est qu'on a, la première chose, c'est la redistribution automatique des clients SMB sur le Scale-Out File Server. Donc, quand on fait un Scale-Out File Server, on a un nom unique qui est exposé. Dans l'exemple ici, en jaune, on voit un // SMB / share. Donc ça, en fait, tous les serveurs du cluster, les quatre ici, servent le même nom. Et l'idée, en fait, c'est d'optimiser, en gros, cette répartition des connexions clientes. Donc si j'ai quatre nœuds et que j'ai 100 clients SMB au-dessus, eh bien, l'idée, c'est d'avoir une répartition bien propre qui soit genre 25. Et du coup, avoir vraiment un bel équilibrage au niveau du cluster. Si on perd un nœud, là encore, c'est pas grave. Perte du nœud, rééquilibrage dans le temps des connexions, on obtiendra du 33. Comme ça, on est sûr que toutes les machines sont au même niveau de performance. Et comme ça, on a quelque chose de relativement homogène.
Super.
On supporte également la data de duplication de données sur ce volume CSV, donc sur ce volume qui est partagé. Très intéressant parce qu'effectivement, dans des environnements de type VDI, la data de duplication peut faire gagner des dizaines de pourcents d'espace disque. Et du coup, ben, en ayant un espace disque qui potentiellement nécessite moins d'espace complet, on va pouvoir mettre par exemple du tiering ou du SSD. Et du coup, amener les données réellement utiles sur la partie SSD. Dernier point, quand on est dans un cluster de type avec du CSV, on a également des dialogues qui se font entre les différents nœuds du cluster pour vérifier leur état de santé et puis des fois rediriger les écritures. Même si tous ont accès au même LUN, il y a quand même un nœud particulier qu'on appelle le propriétaire qui lui a le droit de faire un peu plus d'opérations que les autres, notamment pour des modifications comme les métadatas par exemple d'un fichier. Et donc du coup on va avoir un trafic intra-nœud qui va se faire pour pouvoir faire ces fameuses opérations qui ne sont pas très nombreuses mais qui existent de temps en temps. Là encore, pour l'optimiser, dans Windows Server 2012 R2, on a implémenté ce qu'on appelle les instances multiples SMB.
Alors, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les choses au niveau de cette fameuse redistribution automatique des clients sur un tel cluster?
Alors, l'objectif, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est clairement d'améliorer la montée en charge, d'avoir une montée en charge qui soit homogène et d'avoir un impact sur chacun des nœuds qui soit exactement le même en fonction du nombre de clients. Donc, les clients SMB vont être répartis de manière complètement équitable. Les connexions, en fait, sont suivies par partage de fichiers. Donc, c'est-à-dire que pour un partage de données, tu vas voir la répartition de ces clients. Donc, après, si tu as plusieurs partages derrière avec plusieurs CSV, ben là encore, chaque nœud en fait, va se répartir, les propriétaires vont être répartis. Si tu as, mettons, 10 partages et que tu as 3 nœuds, 10 partages avec 10 CSV derrière, eh bien, en fait, on aura une répartition 3, 3 et 4, en gros.
D'accord.
L'idée étant de ne pas mettre sur un nœud particulier, d'être le propriétaire de tous les CSV en dessous, parce que si ce nœud a un problème, il y aura après derrière un petit impact sur l'arbitrage, etc. Donc, clairement, l'idée, c'est de réduire, en gros, le trafic de redirection, parce que quand on va arriver sur un cloud file server, la première chose qui va se passer, c'est que le client va être redirigé vers le meilleur serveur pour pouvoir garder cet équilibre en termes de nombre de connexions. Donc le tout, c'est d'optimiser en gros ce trafic de redirection. Et donc, après la connexion initiale au partage, en gros, on est redirigé. Donc cette répartition, elle est influencée par le nœud propriétaire du CSV. Et là encore, comme je l'ai dit, hein, les répartitions sont de manière complètement automatique en cas de changement du propriétaire du CSV. Ce qu'on veut, c'est bien équilibrer les clients SMB par rapport au nombre de clusters et également les propriétaires de CSV par rapport au nombre de nœuds du cluster. En ayant toujours cet équilibrage, en fait, on assure qu'en fait, chaque serveur est bien utilisé au mieux de ses capacités et qu'il n'y en ait pas un qui bosse plus que les autres et qui mette une sorte de déséquilibre dans les performances au niveau du cluster. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a strictement aucune configuration à faire. Tout est configuré comme ça et c'est le comportement par défaut. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle.
Donc, est-ce qu'on peut maintenant faire de la data déduplication, donc cette nouvelle fonctionnalité qui est maintenant compatible avec des scénarios complexes comme le VDI,
oui,
sur des tels
scale-out sur ce type d'infrastructure? Bah, tout à fait, oui. En fait. Donc, il faut imaginer que tu vas avoir un certain nombre de serveurs physiques qui vont être les serveurs Hyper-V, qui vont servir ces machines VDI, donc des machines de type machine virtuelle qui exécutent un OS poste de travail, hein, Windows 7 Entreprise, Windows 8, Windows 8. Entreprise. Et effectivement, il y a des grandes chances que les masters de ces différents OS VDI soient les mêmes. Donc, quand on va donner des postes dits personnels, c'est-à-dire une machine virtuelle par utilisateur et une machine distincte, comme si tu donnais un disque dur ou un PC à quelqu'un, bah, ça prend de l'espace. Mais les masters, entre guillemets, la base, elle est toujours la même pour tout le monde. Et c'est là que la data duplication prend toute sa valeur. Parce que si on a 100 PC de type personnel, on va dire qu'un OS installé avec quelques applicatifs, on est entre 10 et 15 gigas, on pourrait se dire bah, 100 machines fois 10 à 15 gigas, ça fait un gros volume. Mais avec la data duplication, finalement, on a ces 10 à 15 gigas qui sont quasiment les mêmes, 10-15 gigas, voilà, qui sont les mêmes par machine.
On peut dire qu'il n'y a que les fichiers d'utilisateurs qui diffèrent.
Et ben, c'est quasiment ça qui va se passer, en fait, via le mécanisme de la data duplication, en fait. Et du coup, on va avoir une réelle optimisation. La beauté de la chose, c'est que donc on supporte ça sur les CSV. Donc, on va pouvoir avoir du coup des serveurs Hyper-V qui vont se connecter à un partage de fichiers avec des nœuds qui sont actifs, donc un scale-out file server. Et c'est ce scale-out file server, en fait, qui sera configuré sur un CSV sur base de storage space, par exemple, avec derrière bah, effectivement du storage tiering et la data dedupe. On commence à des choses assez sympathiques.
Donc encore une troisième fonctionnalité donc pour la montée en charge de ces fameux scale-out file server. Oui.
C'est en fait bah, de séparer les instances SMB. Donc par défaut, on est d'accord qu'on est dans ce comportement-là. Les serveurs Hyper-V ont un client SMB qui se connecte à une instance serveur de SMB, mais sur le partage de fichiers. Et quand les différents nœuds se parlent entre eux pour des communications intra-cluster, eh bien en fait, ils utilisent en fait également du SMB. Mais ils ne vont pas utiliser le même composant serveur SMB pour se parler entre eux. Ils vont avoir une instance particulière qui est dédiée à leur communication intra-serveur. Donc, c'est-à-dire qu'on ne mixe pas en fait la partie SMB entre, on va dire, l'usage, qui sont les hyperviseurs ou les bases de données SQL, et le serveur de fichiers, avec les communications intra-fichiers. Les communications intra-nœuds du cluster se font par une autre instance, donc une autre implémentation, entre guillemets, de SMB, qui est vraiment destinée uniquement à ces communications intra-nœuds. Là encore, on parle principalement de métadonnées de trafic redirigé.
D'accord.
Pour ceux qui ont un petit peu gratté sur le CSV, imagine qu'un de tes nœuds, en fait, n'est plus la carte réseau qui permet, ou la connectique SAS vers la baie de stockage, qui est une panne. En fait, le CSV, mécaniquement, a des mécaniques de redirection qui permettent de dire quand ça passe pas par un chemin, on passe par l'autre. Donc on peut passer par notre carte réseau et parler à un autre nœud du cluster qui lui a bien accès à la baie. Et en fait, du coup, ça fait un trafic. Et ce trafic, potentiellement, il pourra impacter le trafic des clients. Et c'est pour ça qu'on a fait une instance particulière, en fait, pour optimiser, en fait, ces communications entre nœuds de cluster, tout simplement.
D'accord. Bon, ben, il ne reste plus qu'à regarder dans la pratique comment ça peut se passer.
Alors, dans la pratique, la démo va être relativement simple. Je vais te proposer d'aller faire un petit tour sur un cluster qui est ici. Donc, ici, en fait, j'ai deux clusters même dans cet environnement. Un premier cluster qui est composé du nœud R2-1 et R2-2. Ça, c'est mon premier cluster. Et le deuxième cluster, c'est R2-11 et R2-21. Quand je vais dans ma console de cluster, déjà une des premières choses, c'est que désormais, on a une sorte de dashboard ici qui permet de voir un petit peu l'état du cluster, s'il y a eu des problèmes dans les 24 dernières heures, par exemple. Donc là, je vois que j'ai eu des petits soucis ici. C'est pas très grave. On voit ici que si on regarde les rôles de ce cluster qui a actuellement deux nœuds, donc les nœuds R2-1 et R2-2, ils ont un stockage partagé ici, avec notamment un fameux CSV qui a été créé là. Pour regarder les propriétés du CSV si on veut. Voilà, actuellement il est relativement sain. Et quand on regarde ici les rôles que j'ai mis sur ce serveur, j'ai créé un rôle de type Scaled File Server. C'est-à-dire que j'ai un nom qui existe dans mon Active Directory qui s'appelle SOFS R2-1, qui est accessible en fait par tous mes clients. Ce nœud, en fait, ce rôle en fait correspond derrière aux deux serveurs nœud R2-1, nœud R2-2. Mmh. Alors, du coup, comment on fait pour créer en fait un Scaled File Server? Il vous faut au moins deux serveurs dans un cluster avec du stockage à partager. On va venir ici sur Configure Role. Ici, on retrouve l'ensemble des différents, on va dire, rôles, fonctions clusterisables, donc des choses qui sont très connues historiquement, hein, comme par exemple le serveur DHCP, les machines virtuelles qu'on peut mettre sous la forme de cluster, le serveur Wins, etc. etc. Ah, je n'aurais peut-être pas dû cliquer là, et du coup, il est en train de partir en mode réflexion. Donc là, en fait, j'ai cliqué sur machine virtuelle, il est en train de vérifier que j'ai bien des hyperviseurs en dessous. Donc, du coup, il risque de remettre. Il me dit d'ailleurs, avant de vouloir virtualiser une machine virtuelle, il faut peut-être que tu aies le rôle Hyper-V installé sur les différents nœuds de ton cluster.
Ce qui n'est pas faux.
Ce qui n'est pas faux. Donc, moi, je vais venir prendre ici le file server. Donc, tu vois, là, il prend un certain temps. Il est en train de vérifier, en fait, sur mes différents nœuds que j'ai bien le rôle serveur de fichier qui est installé.
D'accord.
Donc, je l'ai fait, moi. Donc, du coup, ça passe. Tu vois, là, il me propose le next. Et c'est ici, en fait, où j'ai le choix entre deux options. Soit je crée un cluster de fichiers traditionnel, c'est-à-dire avec un nœud actif et les autres nœuds sont inactifs. Et donc le nœud et le maître accèdent à une LUN ou un espace, un volume sur la BSAN qui lock en fait. Mais du coup là, on n'a pas de montant en charge, on n'a qu'une machine qui répond à ce rôle-là.
Oui, tout à fait.
Mais ça, c'est suffisamment assez intéressant pour, effectivement, pour des clients derrière traditionnels, type PC, poste client, etc. Maintenant, quand on va avoir des hyperviseurs ou des bases de données SQL Server, il faut que ce soit de tolérance de panne et capable de monter en charge. Et c'est là où on prend la deuxième option, qui est d'ailleurs réservée plutôt effectivement à des scénarios bien précis, hein, en gros Hyper-V et SQL Server. Et là, quand on va être en Scaled File Server, donc là on est for Application Data, et bien du coup on va avoir tous les nœuds, donc là ici j'en ai deux, qui vont être en fait en mode actif-actif, et qui vont répondre à un nom générique commun qu'on va définir ici. Donc on va l'appeler Scaled File Server. Le serveur -R2-1 ou -2 par exemple, j'en ai déjà un. Donc là, ça n'en est de BIOS, hein, tu vois, tout à fait classique. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, l'assistant, donc là, il me dit, eh ben, vous êtes prêt à configurer la haute disponibilité du rôle serveur de fichier. On précise donc le nom de la machine. L'assistant, si je crée sur Next, va venir me créer un objet, en fait, dans l'Active Directory, de type ordinateur qui aura ce nom-là. Donc, du coup, créé dans le DNS également. Donc, la résolution de nom sera faite de manière naturellement. Et le tout se sera mis sur ce réseau-là, qui est mon réseau, en fait, où il y a mon cluster. Et donc, là, du coup, il est en train de faire l'opération. Donc, il est en train de me configurer le réseau. Et il me dit, voilà, la haute disponibilité a été correctement configurée pour ce rôle-là. Donc là, j'ai un petit warning. Visiblement, j'ai mal configuré mon deuxième nœud. C'est pas très grave. Mais pour moi, il faudra que je le fasse. Hein. Donc là, c'est un mauvais exemple. Simplement, ici, en cliquant sur Finish, effectivement, j'ai mon Scaled File Server qui a été créé. Désormais, mes clients peuvent se connecter sur /SOFS-R2-2. Et du coup, ils arriveront indépendamment sur un des deux nœuds Et au fur et à mesure que j'aurai des clients, mais s'équilibreront chacun sur le bon nœud.
Et donc, si on ajoute des nœuds à ce cluster, on ajoute de la performance, on monte en charge.
On monte en charge,
très simplement.
Et voilà. Que dire de plus sur le scale-out server, si ce n'est que c'est plutôt pas mal. Et dans les rôles Hyper-V et les rôles SQL Server, alors SQL Server 2014 et je crois la version antérieure, eh bien, ça apporte des fonctionnalités assez intéressantes qui peuvent revenir potentiellement moins cher d'ailleurs qu'un attachement SAN direct.
Eh bien, merci Stanislas pour ces explications.
Et merci Pascal.
Et à bientôt. Bonjour Stanislas.
Bonjour Arnaud.
Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une fonctionnalité qui vient s'intégrer directement dans l'enrichissement des fonctionnalités de partage de fichiers de Windows Server 2012 R2, qui est la déduplication du stockage des données.
Effectivement Arnaud, cette fonctionnalité en fait n'est pas nouvelle à R2, elle est arrivée dans Windows Server 2012 et elle permet basiquement d'optimiser l'usage des ressources disques. Donc l'idée en fait c'est quand on stocke X fois la même information, des informations très proches, de stocker on va dire une fois le binaire et ensuite de mettre des pointeurs. Je vais prendre un exemple qui va peut-être être plus clair. Imagine que tu aies deux répertoires qui contiennent les sources d'installation d'Office 2013 par exemple. Tu as la version qui vient du CD, du DVD français, mm-hmm. et la version du DVD anglais. Allez tiens, je suis un dingue, je te rajoute un troisième répertoire qui serait la version en thaïlandais par exemple.
Par exemple.
Donc, on est bien d'accord qu'il y a quand même peu de chances que ces répertoires, enfin que ces trois répertoires soient radicalement différents. Mmh. Une grosse partie des binaires sont les mêmes, c'est juste le pack de langue par-dessus qui vient effectivement faire des modifications. L'idée, c'est, avec de la data dedupe, au lieu de stocker trois fois le contenu d'un DVD, en termes d'espace de stockage, on va stocker en fait une fois les éléments, donc tous les binaires qui sont on va dire, communs aux trois distributions. Il y en aura un seul qui sera réellement écrit sur le disque dur, et les autres, en fait, les autres binaires, ne sont fait un droit juste des pointeurs en fait, vers le fichier d'origine. Donc l'idée comme ça, c'est de pouvoir en fait, optimiser l'usage en fait, sur les espaces disques, ce qui devient intéressant quand on commence à mettre des données, des supports de disques qui sont rapides mais assez chers, je pense à tout ce qui est SSD ou hybride. Mm-hmm. Donc, à l'origine, dans Windows Server 2012, cette fonctionnalité était prévue pour des partages de fichiers avec, par exemple, des librairies Virtual Machine Manager ou des sources d'installation, exemple d'Office. Par contre, c'était limité aux fichiers fermés. Donc, ça veut dire que cette technologie de data duplication ne fonctionnait pas, ou ne fonctionne pas, même d'ailleurs, dans du Windows Server 2012, avec des fichiers ouverts tels que des fichiers VHD ou VHDX associés à une machine virtuelle. Et en plus, c'était non compatible avec les clusters share volume, c'est-à-dire en gros les volumes partagés entre différents nœuds d'un cluster, souvent là où on stocke justement les fameux disques durs des machines virtuelles dans des clusters de type Hyper-V. Ouais. Dans 2012 R2, la bonne nouvelle, c'est que désormais, on va pouvoir utiliser la data des duplications de données sur des fichiers ouverts et donc des machines virtuelles, c'est-à-dire des fichiers VHD ou des VHDX en cours d'exécution.
Très bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle, particulièrement dans un environnement de type VDI. Donc le VDI, c'est l'acronyme de Virtual Desktop Infrastructure. Ce sont en gros des machines virtuelles de type poste client, poste de travail qui sont hébergées dans le data center sous la forme d'une machine virtuelle. Donc on a du Windows 7 Entreprise, du Windows 8 Entreprise, du 8. Entreprise. Il existe en fait deux modes de poste de travail virtualisé. Le premier qu'on appelle le poste générique ou le pool, où en fait on a tout le monde a le même environnement et chaque fois que l'utilisateur se déconnecte, en fait, l'environnement est réinitialisé. On part d'un disque dur d'origine et ensuite c'est du différentiel. Donc là, dans cette histoire, on va dire que la data duplication n'apporte pas grand-chose. Par contre, l'autre mode de poste, qu'on appelle le poste personnel, c'est-à-dire une machine virtuelle de type poste de travail qui associe un utilisateur et rien qu'à lui, eh bien imagine que tu as 10 utilisateurs, ça veut dire que tu as 10 VHD en fait, contenant le master en gros d'installation du système. Et là, on est d'accord que le master, entre guillemets, c'est-à-dire que le socle système applicatif, logiquement, il est le même pour tout le monde.
Ouais.
Et donc, du coup, au lieu de stocker 10 fois les mêmes, on va dire, 10 ou 13 premiers gigas qui sont le système avec les applications, mm-hmm. et on va le stocker qu'une fois. Et du coup, on va, comme ça, gagner de l'espace. Du coup, ça permet, en ayant moins d'espace nécessaire, d'utiliser des choses comme, par exemple, du SSD, et donc, du coup, d'améliorer les performances au final. À noter, c'est que c'est également donc, supporté sur les CSV, désormais. donc sur les clusters champ volume. Donc là encore, imagine que tu es, je ne sais pas, 10 ou 20 serveurs Windows Server 2012 qui tournent. Là encore, une partie des éléments binaires sont communs, quels que soient les VHD. Ouais. Là encore, on va avoir de l'optimisation là-dessus. Et donc, on va pouvoir l'avoir, y compris au sein d'un cluster. Dernier point sur les performances. Je rebondis sur mon histoire de SSD. Le fait de pouvoir utiliser, par exemple, des SSD pour stocker tout ça et donc d'avoir besoin de moins de place, fait que mécaniquement, on va gagner énormément de performance.
Ouais. Voilà.
Si tu me montrais ça dans un petit environnement de démonstration.
Eh bien, parfait. Donc là, je te montre un petit environnement simple où il y a en gros quelques machines qui ont du storage space et qui hébergent différents environnements de VDI plus ou moins optimisés. Donc là, par exemple, sur une machine, j'ai un environnement de VDI qui est bâti sur un storage space. Et cet environnement de VDI, en fait, il y a beaucoup de VM qui se ressemblent. Et tu vois que ça se ressent sur la data value, puisque sur ce volume qui fait 600 gigas, j'ai quand même réussi à avoir des économies d'espace disque avec la data dupe qui correspondent à 420 gigas.
Donc, tu vois, fait à peu près 65% si je sais bien lire ton écran.
Voilà, ou même de tête, on peut le recalculer. 65%, donc c'est quand même relativement intéressant. Sur un environnement de VDI, on gagne pas mal et on peut plus monter en performance.
Et en plus, on est sur vraiment un petit VDI et non pas un gros VDI entreprise où on aurait des dizaines de machines virtuelles. Plus effectivement on aura des machines virtuelles qui se ressemblent, plus on va optimiser. Donc réellement pour du VDI de type poste personnel, on va avoir une super optimisation grâce à cette technologie.
Exactement. Alors la data dedupe, c'est quelque chose qui tourne régulièrement sur les serveurs. D'ailleurs, quand tu vas l'activer en fait sur un volume, c'est là que tu vas pouvoir dire configurer la déduplication de données. Et c'est là que tu vas voir qu'en fait tu as plusieurs modes de déduplication de données. Est-ce que c'est un file server classique ou est-ce que c'est justement un environnement de type VDI. Alors si tu définis ce paramètre ici, il te dit voilà, faire la déduplication sur les fichiers qui sont plus que 3 jours et ensuite tu peux définir des exceptions. Et voilà, tel dossier passe pas du temps CPU à faire la dédupe parce que ça vaut pas le coup pour x et y raison. Et puis ensuite tu spécifies le calendrier de la dédupe. Donc là tu vas pouvoir dire je optimise tout ça en mode background, et j'optimise tout ça pour la performance, et je peux donc déterminer que je vais autoriser des fenêtres, par exemple ici, une première fenêtre primaire de 6 heures qui va se déclencher tous les jours dans mon calendrier à 1h45 du matin, et je peux définir un calendrier secondaire qui effectivement va tourner à partir de 9h du matin pendant 8 heures, pendant tous les jours. Donc ça, c'est les différents intervalles, différents moments où tu vas créer en fait l'analyse des blocs et puis la consolidation des fichiers.
C'est là où on parle souvent de déshydratation, où effectivement quand on a deux blocs qui sont les mêmes, on se dit du coup il n'y en a qu'un seul qu'on va garder, le deuxième sera des pointeurs, ce qu'on appelle de la déshydratation. À l'inverse, si on supprime l'original, on va réhydrater entre guillemets la source d'à côté.
Voilà à quoi ça ressemble en tout cas dans l'interface du file server de 2012.
Merci Arnaud, je te propose maintenant de discuter de ce qui n'est pas supporté avec la data duplication de données.
Et oui, tous les scénarios ne sont pas supportés, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec la data dedupe. Donc qu'est-ce qui n'est pas supporté?
Alors, volume de boot, système, donc là où il y a Windows, basiquement, c'est pas là-dessus qu'il faut travailler, on oublie. Si vous êtes sur de la FAT ou du REFS, là encore on oublie, c'est vraiment une fonctionnalité qui est associée au NTFS. Si vous attachez une ressource distante, un filer distant, je disais, je vais activer dessus la data dedupe, non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est sur des disques qui sont attachés localement à un serveur. Pour les données, les machines virtuelles, il faut que les machines virtuelles soient stockées soit sur un SAN avec un cluster, soit sur un Scaled File Server, c'est-à-dire en gros un cluster de fichiers en mode actif.
D'accord, donc ce n'est pas sur des VM que je vais exécuter localement, c'est des VM qui sont situées sur un serveur de fichiers 2012 R2 qui exécute la data dedupe.
Exactement. À noter, là on parle de support, c'est-à-dire si vous appelez le support Microsoft parce qu'il y a un problème, ils vont vous aider. Techniquement, en fait, vous pouvez mettre en place de la data dedupe sur des machines locales, mais c'est plus à un usage d'optimisation sur un environnement de test ou sur un PC portable parce que vous voulez gagner un petit peu de place sur votre SSD. Dans tous les cas, c'est vraiment non supporté, donc ne le faites pas sur la production. Même chose, tout ce qui concerne les bases de données SQL Server ou Exchange en cours d'utilisation, on les oublie. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, tu nous as montré qu'on peut faire des exceptions par rapport à des types de données ou des répertoires. Donc si vous avez sur un même volume à la fois des choses optimisées et des bases Exchange ou SQL, pensez à exclure les répertoires Exchange ou SQL pour la partie en fait data dedupe. Dernière chose, les fichiers qui ont des attributs étendus ou des fichiers qui sont chiffrés, ça par définition on comprend, hein, l'analyseur n'est pas capable de déterminer de ce qu'il y a dans un fichier chiffré, parce qu'il est crypté. Hein. Et pareil, les fichiers dont la taille est toute petite, c'est-à-dire inférieure à 32K, là c'est pas tenu en compte par les mécanismes de data dedupe.
Donc avoir en tête hein, quand on conçoit des infrastructures pour éviter de tomber dans des cas un petit peu embarrassants quand on appelle le support Microsoft.
Voilà. Je pense qu'en quelques minutes, on a fait un joli petit tour en fait de la data duplication de données dans Windows Server 2012 R2. À retenir donc effectivement, c'est qu'on supporte désormais cette fonctionnalité pour des environnements avec des fichiers en cours d'exécution ou d'utilisation typiquement, principalement les environnements DVDI.
Eh bien merci Stanislas.
Merci Arnaud.